Il est l'heure de la revue de presse française, comme chaque matin, et à la une. Ce matin, il y a la mobilisation des agriculteurs.
Il y a un changement historique dans la grande distribution, ma chère Julie, ça va vous intéresser.
Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro. Mais là, pas de lapin, non, c'est de poulet dont il est question.
Today's story, Neil, is about a food that a lot of people around the world eat for breakfast.
It's business.
La revue de presse du business de la bouffe.
Avec Olivier Frey.
Et Daniel Coutinho.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon ami consultant indépendant qui n'a jamais mangé dans une cantine d'entreprise. Bonjour Olivier.
Salut Daniel, bonjour à tous. Bon, c'est vrai que consultant indépendant, on mange plus souvent au restaurant qu'au restaurant d'entreprise, hein, j'avoue.
Alors Olivier, aujourd'hui nous allons parler de la restauration collective en entreprise qui se réinvente, d'une start-up de livraison des repas qui se focalise là où Uber Eats et Deliveroo ne sont pas présents, de la Russie qui est devenue un acteur majeur de l'agroalimentaire dans le monde, dans la grande distribution qui revient au monde d'avant avec des fraises espagnoles à moins d'un euro et d'une start-up aux États-Unis qui a développé une technologie pour vieillir les spiritueux instantanément. On commence tout de suite avec un article sur Les Échos, comment les géants des cantines s'est convertissent aux nouvelles pratiques de la restauration. Olivier, la crise sanitaire a accéléré la transformation du secteur et l'offre des grands groupes et start-up ne cesse pas d'évoluer.
Oui, effectivement, hein, avec le Covid, finalement, il y a eu le développement du télétravail. Les salariés ne peuvent pas tous venir tous les jours dans leur entreprise. Du coup, les grands acteurs du secteur, que sont Compass, Elior et Sodexo, ils ont tous mis en place une stratégie spécifique face à ces changements qui sont probablement amenés à durer. Hein, oui. Le télétravail est probablement amené à durer. Donc du coup, Sodexo et Elior, eux, ils ont misé sur des rachats de start-up. Hein. Sodexo a racheté Food Cherry en 2018.
Il y a 3 ans déjà, ouais.
Et Elior a racheté récemment Nestor. Et Compass, lui, ce qu'il a choisi de faire plutôt, c'est de lancer une nouvelle offre sous une marque qui s'appelle Popote.
Qui a une offre un peu similaire à l'offre des Food Cherry et Nestor, plus adaptée à la restauration collective, mais pas celle d'avant, avec des grandes cantines d'entreprise, plutôt une offre plus flexible qui s'adapte à différentes tailles d'entreprise.
Oui, parce que la taille de la cantine, c'est aussi une problématique majeure pour les boîtes hein, aujourd'hui.
Tout à fait. Et justement, Olivier, pour mieux comprendre l'évolution du secteur et la stratégie des principaux acteurs, nous avons avec nous aujourd'hui, par téléphone, Pierre-Antoine Gallet, directeur des Popote, et Sixte Devoplan, CEO et cofondateur des Nestor. Bonjour Pierre-Antoine, bonjour Sixte.
Bonjour, hello.
Pierre-Antoine, commençons par toi d'abord. Est-ce que tu peux nous expliquer l'offre Popote en détail, à l'origine du projet au sein du groupe Compass?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous. Juste vous donner un peu l'historique. Popote, je dirais, est né il y a maintenant un peu moins d'un an, à la sortie du premier confinement. Mmh. Juste pour redonner ce contexte qu'on connaissait tous, mais on a eu, comme vous l'imaginez, un retour des collaborateurs sur leur lieu de travail assez timide, avec des immeubles peu remplis et des restaurants qui avaient du mal à rouvrir. On s'est alors dit au sein du groupe Compass qu'on allait tester quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait et lancer une restauration livrée en entreprise depuis un atelier commun de production ou dark kitchen, pour reprendre les termes, je dirais les termes un peu à la mode. Et donc on a dans la volonté d'accompagner nos clients de l'époque, utiliser une cuisine, un labo central qui est situé à Courbevoie, et on a lancé, je dirais, cette offre de livraison avec cette volonté d'avoir une offre qui soit dans notre ADN de restaurateur 100% intégrée, dans le but de faire travailler nos chefs, d'avoir évidemment des appros produits sélectionnés par nos équipes, et ensuite, je dirais, d'avoir nos équipes au service des collaborateurs au sein des immeubles. Donc ça, c'est une offre qu'on a fait sur la période estivale l'année dernière pour nos clients existants, et on a eu, je dirais, un retour, un franc succès sur le retour de ce test, et je dirais qu'a conforté notre idée de vouloir accélérer le développement de cette offre et donc de créer une offre spécifique à la livraison de repas en entreprise. Et c'est comme ça que Popote est né il y a maintenant un peu moins d'un an.
Et justement, pourquoi vous avez choisi d'internaliser finalement ça plutôt que d'acheter une start-up qui faisait déjà cette offre-là?
Et ouais, bah, évidemment, bonne question qu'on s'est posée à cette époque-là. On a imaginé à un moment la croissance externe, en effet, en s'appuyant sur un savoir-faire déjà existant. Mais finalement, notre réflexion a été de se dire qu'on avait, je dirais, tous les ingrédients en interne pour répondre pour répondre à ce nouveau besoin hein, qu'on répondait enfin sur lequel on avait décidé historiquement de pas se positionner, mais évidemment on a eu une ADN, je dirais chez Compass, de restaurateur hein, on est restaurateur et uniquement restaurateur et je pense que la plus grande richesse qu'on avait au sein du groupe, c'est évidemment les hommes et les femmes de nos équipes et on s'est dit qu'on avait je dirais ce collectif de chefs et d'équipes de cuisine qui nous permettent aujourd'hui au travers de l'offre Popote de créer nos menus, de sourcer nos appros, d'être capable voilà de développer une offre adaptée aux nouveaux besoins. On a des équipes de service dédiées et surtout il y avait cette volonté, je dirais, de créer une identité qui nous est propre et on n'avait pas envie juste de s'adosser à quelque chose de déjà existant. On voulait créer une identité de A à Z et c'est comme ça en effet qu'on a fait le choix de créer Popote directement.
Merci beaucoup Pierre-Antoine. Et Sixte, est-ce que tu pourras nous expliquer l'offre des Nestor et nous raconter rapidement les étapes clés du développement depuis la création de la boîte en 2015?
Oui, évidemment. Du coup, Nestor, ça a été créé en 2015 avec une idée qui était assez simple, c'est de se dire que pendant longtemps, les collaborateurs, les consommateurs à l'heure du déjeuner avaient le choix entre deux alternatives. Grosso modo, c'était les titres restaurants et d'un côté, la restauration collective traditionnelle de l'autre. Et on se rendait compte qu'il y avait grosso modo une problématique, puisque la première solution est pas forcément adaptée aux petites et moyennes entreprises pour des raisons de coûts et d'investissement. Et la deuxième solution, celle des titres restaurants, ne permet plus aujourd'hui, notamment dans les zones urbaines, de pouvoir déjeuner sainement à bon prix. Et donc c'est pour ça que on a lancé Nestor il y a maintenant 6 ans, avec cette volonté de pouvoir proposer une solution de restauration à destination des collaborateurs, qui soit fraîche, qui soit de saison, qui soit qualitative, qui soit flexible aussi. Et aujourd'hui, on a au sein de Nestor plusieurs offres et en fait un panel d'offres qui va être assez différent, qui va de la livraison groupée en entreprise, jusqu'à la livraison individuelle en télétravail sur toute la France, en passant par des modèles de frigo connectés, des modèles de comptoir en entreprise qui permettent de pouvoir proposer une solution de restauration d'entreprise qui soit plus flexible, plus adaptée pour les petites moyennes entreprises, mais aussi depuis la crise du Covid, de répondre à des entreprises qui ont besoin de plus de flexibilité avec l'émergence du télétravail.
Et justement, pourquoi avoir rejoint Elior du coup? Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment le rapprochement s'est fait et comment vous allez être intégré après au sein du groupe?
C'est quelque chose qui est venu de manière assez naturelle. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on a travaillé sur une logique au départ très B2C pour travailler notre marque, pour travailler notre produit, pour travailler la communication qu'on avait auprès de chacun de nos collaborateurs, parce qu'on estimait que c'était quelque chose d'extrêmement important. On ne vend pas simplement un produit pour l'employeur, on vend un repas aussi pour l'employé. Et donc c'est tout le travail qu'on a fait pendant les 5 premières années en ayant une vraie expertise sur cette première partie et une expertise aussi sur la logistique du dernier kilomètre qui permettait de répondre à la logique du télétravail. Après la crise sanitaire, on s'est rendu compte que le marché était en train de totalement se bousculer et qu'il y avait de notre côté deux possibilités, soit de s'adosser à un groupe industriel pour accélérer notre développement, soit de continuer en solo. Mais ça allait probablement prendre plus de temps pour pouvoir mailler le territoire de manière suffisamment efficace, que ce soit au niveau des laboratoires de production, que ce soit au niveau des hubs logistiques, etc., etc. Et donc on a assez rapidement entamé des discussions avec Elior qui se sont concrétisées en fin d'année dernière. Et l'idée elle est assez simple, c'est-à-dire que la volonté d'Elior et du groupe aujourd'hui est pour le coup assez différente de Compass, c'est de se dire que le métier de restaurateur et le métier de la restauration collective est assez différent du métier que fait Nestor aujourd'hui, puisqu'on on ajoute une surcouche logistique, technologique et aussi de relations auprès du client qui est extrêmement importante. Elior avait essayé dans le passé de lancer ses différentes offres, et d'ailleurs les d'autres acteurs de la restauration collective ont tenté et sont arrivés à la conclusion que le meilleur moyen de pouvoir toucher ce marché-là était de pouvoir faire un partenariat fort avec une start-up du secteur. Et toute la logique aujourd'hui est de laisser suffisamment d'indépendance à Nestor pour continuer à garder l'esprit entrepreneurial qui a fait notre force et qui va nous permettre de pouvoir nous adapter extrêmement rapidement, ce qui, je pense, est quelque chose de primordial pour réussir à continuer à faire développer ce business, tout en créant des vraies ponts synergiques, que ce soit d'un point de vue opérationnel, que ce soit d'un point de vue commercial, pour pouvoir justement réussir à créer un effet de levier suffisamment intéressant afin d'accélérer le développement, que ce soit en région parisienne ou en province.
Vous avez tous les deux donc évoqué évidemment que le secteur est en pleine transformation et la crise sanitaire n'a fait qu'accélérer les changements de fond. Cela a évidemment attiré une énorme variété d'acteurs, hein, les acteurs traditionnels comme les groupes de restauration collective et les traiteurs qui étaient déjà là, mais aussi toute une gamme des nouveaux entrants comme les startups des livraisons, les frigos connectés. Et comment vous voyez l'évolution du secteur sur les années à venir dans la période post-Covid et comment surtout tirer son épingle du jeu dans un marché si concurrentiel? Pierre-Antoine, on commence par toi.
Oui, bien sûr. Je rejoins complètement le point que tu viens d'évoquer dans la question. En effet, on est persuadé chez Popote que l'importance du déjeuner en entreprise va prendre une place de plus en plus importante au sein des entreprises. On discute beaucoup hein, aujourd'hui qu'on passe ces mille restaurants à travers la France. On a un contact régulier avec nos clients et ce qu'on entend de plus en plus, c'est que évidemment que le rapport à la venue au bureau sera modifié profondément avec un télétravail qui est en plein essor, une présence au bureau qui va être bien plus limitée. En revanche, elle sera bien différente et bien différente dans la façon de se retrouver, dans la façon de vivre des véritables moments de convivialité avec ses collègues quand on est présent. Et ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est que la restauration va jouer un point clé dans la journée d'un collaborateur en entreprise et que très clairement, pour être capable d'y répondre, il va y avoir plusieurs points. Le premier point, nous, qu'on a voulu sur la restauration et pour se démarquer, c'est cette notion, le point d'ancrage, hein, évidemment, c'est cette notion de produit, d'être capable d'offrir une offre de qualité produite par nos équipes avec des produits respectueux de l'environnement. Nous, chez Popote, on est en 100% de produits frais, 100% de produits de saison. Donc ça, je pense, c'est un marqueur très fort sur le cœur de notre métier, encore une fois, hein, les produits et nos recettes. La deuxième notion, je pense que c'est cette notion d'une offre incarnée et animée. J'évoquais à l'instant cette notion de convivialité, le besoin de se retrouver en entreprise. Et c'est d'ailleurs le choix qu'on a fait avec Popote, qui n'est pas forcément le choix de tous les acteurs sur le marché. C'est surtout de ne pas tomber dans une restauration qui pourrait être déshumanisée à travers des frigos connectés, à travers les livraisons qui se fait au pied d'un immeuble. Non, nous, on veut incarner des lieux de vente. Et c'est pour ça qu'on a systématiquement dans nos points de vente un Popote manager qui est là pour accompagner les collaborateurs toute la journée. Ça nous semble être un point fondamental. Et le dernier point, évidemment, c'est toujours plus de flexibilité et d'agilité. En effet, la restauration d'une entreprise, elle évolue, et notamment sur ce marché-là. Et on a cette obligation, je dirais, d'être flexible et agile. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être une start-up pour avoir compris ça. Et aujourd'hui, cette flexibilité et agilité, nous, on la propose chez Popote sous différents formats. C'est évidemment 100% de l'offre, comme je le disais, disponible dans nos corners de vente Popote au travers de nos équipes. Mais c'est évidemment une solution digitalisée 100% avec notre application où toute la prestation Popote est disponible, commandable sur l'application et disponible en click and collect. Et puis après, c'est s'adosser évidemment à des solutions digitales qui sont déjà préétablies et bien en place chez Popote au travers de frigos connectés pour répondre, je dirais, à des besoins, à des horaires décalés. Donc voilà, pour répondre à cette question, les trois points, c'est cette notion de produit, cette notion d'homme et de femme qui anime nos points de vente et cette notion de flexibilité et d'agilité.
Merci beaucoup Pierre-Antoine. Et toi Sixte, comment tu vois l'évolution du marché et les rôles que Nestor a joué là-dedans?
Écoute, déjà je souscris beaucoup à ce qu'a dit Pierre-Antoine, notamment sur le côté humain. Je pense que c'est quelque chose qui pour le coup nous rassemble entre l'œuvre de Popote et l'œuvre de Nestor, puisqu'on est aussi, on fait partie aussi des rares acteurs. On a commencé non pas par les frigos connectés, mais par des offres de comptoir avec un animateur qui est sur place, justement parce qu'on pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est indispensable de pouvoir recréer un lien social au sein de l'entreprise. Et c'est une vraie demande en fait de la part des clients. C'est-à-dire que le frigo connecté, qui est plutôt en vogue aujourd'hui, répond bien à des besoins pour les entreprises qui vont faire les 3-8 ou en horaire décalé, etc., etc. En complément d'offres, c'est extrêmement bien. Mais c'est important de pouvoir garder ce côté humain. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est clé dans la restauration de demain. Une restauration qui soit engagée, effectivement, des produits frais, des produits de saison. On a commencé Nestor dès 2015 avec cette promesse-là. Je pense qu'il y a une promesse qui est importante sur laquelle les clients vont nous attendre demain, c'est sur la gestion du packaging et des déchets, puisque tout ce qui va être lié à la livraison ou les offres de frigo connectés, pour la plupart, sont avec... du packaging qui peut être compostable, mais c'est du packaging qui va être jetable. On a signé il y a quelques mois avec le ministère de la Transition écologique un pacte zéro déchet dans les mois à venir, et on commence déjà à déployer des solutions de restauration zéro déchet, que ce soit en livraison ou en frigo connecté ou en comptoir auprès de nos clients. Et enfin, c'est surtout, je pense, la clé, ça va être d'avoir une offre qui répond à 360 degrés à l'ensemble des collaborateurs. C'est-à-dire que la restauration collective, c'est plus simplement de la restauration. Enfin, la restauration d'entreprise, c'est plus simplement de la restauration sur site. Le télétravail a changé la donne. On est plus sur 2 ou 3% de télétravail. Donc, ça veut dire à la fois gérer les personnes qui vont être en déplacement, les personnes qui vont être en télétravail régulier, ceux qui vont être en télétravail ponctuel, ceux qui vont être plus présents sur site. Et donc, de pouvoir proposer cette solution-là à l'ensemble des entreprises. D'ailleurs, quelle que soit leur taille, petite, moyenne ou grande, je pense que les petites et moyennes entreprises ont été assez souvent délaissées ces dernières années. Et je pense qu'il y a un vrai besoin de pouvoir proposer une solution de restauration qui réponde à leurs besoins. Proposer une offre qui réponde pas simplement aux besoins de l'employeur, mais qui réponde surtout aux besoins de l'employé.
Super, merci beaucoup Pierre-Antoine et Sixte pour votre participation, et on vous souhaite beaucoup de réussite dans le développement de vos activités respectives.
Merci.
Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao, ciao.
Alors Olivier, on continue sur les mêmes sujets. Cette fois-ci, c'est sur les JDD, livraison des repas frichetiers à toute vapeur. Olivier, dans cet article, on apprend un peu plus sur l'impact de la crise sanitaire sur l'activité des frichetiers et comment les startups s'est adaptées pour faire face à ces nouveaux contextes.
Oui, Frichetier, c'est une startup qui s'est lancée il y a déjà quelques années, hein, en 2015. Et ils ont levé depuis 43 millions d'euros, ils emploient 350 personnes. Et désormais, ils sont installés aussi à côté de Rungis, ce qui peut être intéressant pour le sourcing. Hein. On a juste à aller à côté de là où on est installé. Et ils ont une cuisine de plusieurs milliers de mètres carrés.
Ouais.
Donc, plusieurs milliers de mètres carrés, ça commence à causer. Hein.
Ça commence à...
Et l'article, en fait, nous apprend aussi qu'avant la pandémie de Covid-19, 2/3 du chiffre d'affaires de Frichetier dépendait des livraisons dans les bureaux.
Énorme. Ouais, c'est énorme. Les 10 février 2020, donc juste un mois avant les confinements, Frichetier lançait sa cantine 2.0. Et à l'époque, Julia Bijawi, cofondatrice des Frichetier, elle disait « Nous livrons déjà la moitié de nos repas sur des lieux de travail et ce sont les salariés eux-mêmes qui nous ont encouragés à leur proposer une offre moins chère et plus adaptée à leur quotidien. »
Oui, du coup, comme la pandémie, bah forcément, hein, télétravail, etc., on se répète. Hein, et du coup, ça a forcé les cofondateurs de Frichetier à repenser rapidement leur business model, parce que finalement, au-delà de la livraison de repas, hein, qui est leur cœur de métier historique, on le sait, hein, Frichetier, ils ont commencé comme ça.
Tout à fait.
Ils comptent également se développer dans la livraison de courses. Mm-hmm. Donc, courses à partir de dark stores, comme on dit maintenant. Et du coup, le Frichetier Market, c'est déjà un vrai succès, hein, pour Frichetier, parce qu'ils ont triplé, a priori, leur chiffre d'affaires depuis septembre 2020.
Énorme. Ouais.
Donc, c'est quand même une belle perf. Hein.
C'est clair. Ils avaient déjà les maillages, les points de livraison un peu partout à Paris, c'est qui les a aidés à développer cette offre. C'est très intéressant pour moi de voir comment Frichetier s'est encore une fois réinventé très rapidement. Hein. Même si je ne suis pas client de Frichetier, je suis très impressionné par l'évolution de leur offre supermarché et surtout la qualité du sourcing. C'est franchement pas mal, hein, ce qu'ils proposent dans le supermarché.
Oui, leur assortiment aussi est passé de 350 à 1200 produits. Donc
c'est clair.
C'est plus du petit assortiment comme on l'avait au tout départ. Moi, j'ai connu un peu au tout départ leur supermarché. C'est
très limité.
L'offre était réduite. Et aujourd'hui, ils sont aussi implantés. Ils ont 18 dark stores ou petits entrepôts, hein, dans Paris.
En revanche, ce segment des dark stores est très concurrentiel. On a évoqué déjà dans plein d'épisodes d'It's Business l'arrivée de plusieurs acteurs, Cajou, Gorillaz, Fink, des boîtes italiennes, des boîtes russes. Tout le monde s'intéresse à ces secteurs-là. Et l'offre de la grande distribution aussi qui continue d'évoluer, hein, avec des acteurs de la livraison qui se mettent en partenariat avec Uber Eats, avec Amazon. Donc c'est un segment très concurrentiel en fait, où Frichetier fera face à des acteurs avec beaucoup, beaucoup de moyens.
Oui, et en fait, Frichetier, eux, ils annoncent vouloir s'étendre au-delà de Paris, hein, parce qu'aujourd'hui, ça reste très parisien. Hein. Je pense que les gens en province ne connaissent pas forcément Frichetier. Et ils comptent s'implanter dans 4 autres grandes villes, hein, Lyon, Bordeaux, Nantes et Lille, avant la fin de l'année.
C'est ça. Et je pense que Lyon, ils ont annoncé là, il y a 2 jours, Lyon, ça sera ouvert d'ici une semaine, quoi.
Sachant que Cajou a aussi annoncé qu'il voulait s'implanter un peu partout en France aussi, hier ou avant-hier. Hein.
Bah, donc, ils vont tous.
Ça va être la boxe.
Moi, j'allais dire que c'est une façon pour Frichy de garder de l'avance, mais franchement, comme tu dis, Cajou va faire pareil. Il y a d'autres sociétés qui ont choisi de démarrer par Lyon, par exemple. C'est le cas de la startup italienne, Everly, voilà. Donc, la question que je me pose sur les stratégies des Frichy par la suite, et sur quel segment ils vont se concentrer. Parce qu'à la fois, ils s'intéressent au segment de la restauration collective en entreprise, mais aussi au segment des dark stores. Donc, est-ce que cette double stratégie sera une force ou une faiblesse pour Frichy?
Sachant qu'on a des entreprises aussi comme La Belle Vie qui font aussi la même chose, finalement. La Belle Vie, ils ont aussi des plats préparés, etc. Donc, le problème qui va se poser, c'est que tous ces acteurs de la livraison rapide, du quick commerce, comme on dit, ils vont vouloir saturer les villes avec une offre. Donc, tout le monde va aller en même temps pour saturer et essayer de sortir premier, parce qu'on sait que là-dessus, ce sera la course au premier. Hein.
Bien sûr.
Il n'y aura pas 15 acteurs sur ce créneau-là. Donc, on souhaite bonne chance à Frichy, parce que ça ne va pas forcément être évident.
Hein. Non. Et surtout que toutes ces boîtes-là ont levé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, à voir comment ça va se passer. De toute façon, il y aura des opportunités pour les consommateurs, parce que
forcément.
Je pense qu'il y aura pas mal d'offres. Pour l'acquisition va être un élément clé de cette...
C'est le consommateur qui décidera qui va résister ou pas.
Tout à fait. Bon, on va continuer sur la livraison, Olivier, mais cette fois-ci, on passe d'un pionnier du secteur à une start-up très peu connue dans les grandes villes, en fait. C'était sur Les Progrès. Live It livre des plats des restaurateurs jusqu'à 30 km. Alors, Olivier, on découvre dans cet article une start-up qui s'est développée sans faire des bruits, en se focalisant sur des villes intermédiaires où les mastodontes du secteur ne sont pas présents.
Oui, j'avoue que moi, je la connaissais
moi
pas.
Moi non plus. Hein.
Nous, on est parisiens, donc on connaissait pas forcément. Mais moi, je trouve ça très bien parce que je suis amené à me déplacer aussi en province. Et c'est vrai que les gros acteurs sont pas forcément dans les villes intermédiaires.
Oui.
Et ça, c'est une start-up qui a été lancée en décembre 2019 dans l'Ain.
Oui.
Et elle a la particularité, finalement, de cibler ces villes moyennes qui ont entre 5 et 60 000 habitants.
D'accord.
Et elle est désormais présente dans 120 villes.
120 villes ?
Ouais.
Bah, moi, je trouve ça très malin comme stratégie, en fait. Ils se sont focalisés dans des villes où il n'y a pas de concurrence, finalement. Et même si le potentiel de ces villes-là est plus faible que dans les grandes villes françaises, quand on met 120 petites villes ensemble, ça commence à faire un bon petit business.
Ça commence à faire beaucoup. Et aujourd'hui, a priori, la start-up, elle emploie 450 livreurs. Alors, je n'ai pas très bien compris s'ils sont salariés ou en auto-entrepreneur. Je pense que c'est plutôt en auto-entrepreneur.
Ouais.
Et ils proposent des services dans un rayon de 30 km, ce qui nous paraît beaucoup, nous, à nous, Parisiens,
oui,
ou habitants des grandes villes.
En région,
c'est pas mal, avec une livraison garantie
en
moins
d'une
heure.
Par vélo, je suppose, par contre.
Peut-être, on ne sait jamais. Hein. Faudra qu'on leur demande. Hein. C'est des jeunes qui ont une vingtaine d'années,
fait,
hein,
ouais.
Les fondateurs. Et comme l'explique Enzo Chani, l'un des cofondateurs, c'est que nos commissions sont beaucoup plus faibles que les autres prestataires, en plus de la totalité des frais de livraison reversé
aux
livreurs.
Ouais.
Donc, ils perçoivent à peu près 1 euro par kilomètre plus 2 euros de prise en charge.
C'est pas mal. Ce qui veut dire qu'une livraison d'un repas à 30 km du restaurant coûte au consommateur 32 euros. Ce qui est, on va dire, plutôt cher, mais qui est finalement les vrais coûts de la livraison. Et comme la startup n'a pas des concurrents, elle n'a pas besoin de subventionner la livraison et d'impacter sa rentabilité. Donc, cela lui permet de travailler avec des commissions plus faibles que celles appliquées par Deliveroo et Uber Eats autour des 25-30%.
Et du coup, ils se sont fixés des objectifs assez ambitieux. Hein. Ils ont pour objectif d'être implantés dans 350 villes d'ici à l'été 2022.
Wow, c'est énorme. Et dans l'article, les fondateurs expliquent les stratégies. En fait, nous voudrons devenir la référence des livraisons des repas à domicile dans les villes intermédiaires, comme tu disais, entre 5 et 60 000 habitants. Nous n'avons aucun intérêt à nous implanter dans les grandes villes où les concurrents répondent déjà très bien à la demande, en fait.
Ouais, tout à fait. Donc, moi, j'ai hâte à mon prochain déplacement en province de tester le service. Hein.
Ah oui, en Alsace,
retour.
Peut-être.
Ah ouais, ouais. Il faut que je regarde où ils sont exactement.
Ben, en tout cas, bravo à l'équipe Livit pour cette belle stratégie. On continue avec un sujet que nous avons largement abordé lors du dernier épisode des Hits Business. C'était sur Le Parisien. Gel, pourquoi aussi peu d'agriculteurs sont assurés? Olivier, cette semaine, on aborde encore le sujet du gel, mais sous un autre angle, en fait. On va parler d'assurance.
Oui, nous, en tant qu'urbains, on se dit, bon, il y a un risque. Pourquoi ne pas s'assurer contre ce risque-là? Mais finalement, selon les chiffres de la Fédération française de l'assurance, il n'y a que 32% des viticulteurs.
32.
Et moins de 4% des surfaces arboricoles qui sont assurées contre le gel.
4%. Et avec les changements climatiques, c'est qu'on a évoqué la semaine dernière, ils seront peut-être un peu obligés de repenser à ça. L'absence d'assurance parmi beaucoup d'exploitants pourrait bien compliquer les indemnisations, en fait.
Alors d'après l'article, par contre, pourquoi les agriculteurs ne s'assurent pas contre le gel ? C'est avant tout une question de prix, hein, dans le sens où
oui.
un contrat d'assurance multirisque climatique, c'est jugé trop cher par de nombreux agriculteurs. Un exemple qui est donné par un arboriculteur, c'est que pour une assurance moyenne pour des cerisiers, il faut compter à peu près 1500 euros par hectare.
1500 euros.
Avec une franchise de 20%.
Énorme.
Donc c'est vrai que la franchise est assez importante. Hein.
Oui, on se rend compte dans l'article finalement que pour beaucoup des viticulteurs et d'arboriculteurs, c'est protégé contre les intempéries, est trop cher et mal adapté. Aujourd'hui, dans les milieux, ce niveau de franchise est perçu comme trop élevé, comme tu disais, ce qui désincite les agriculteurs à s'assurer.
Ouais, et c'est aussi à cause du seuil de déclenchement de ces assurances. Hein, c'est ce que dit la directrice du marché agricole chez Groupama. Mmh. Il faut que l'agriculteur ait 30% de perte de rendement
30%.
Et 13% de perte de chiffre d'affaires pour que l'assurance se déclenche.
Oui.
Donc, il faut quand même être sacrément impacté. Donc, ça fait réfléchir les agriculteurs aussi. Et il faut voir aussi qu'en parallèle, il existe un fonds de calamité agricole, ça s'appelle,
mmh.
qui permet d'indemniser à partir de 30% de baisse de revenus.
D'accord.
Donc, il y a aussi le fait que si vous êtes assuré, normalement, vous ne pouvez pas prétendre à ce fonds de calamité agricole. Donc, il y a un peu, on est agriculteur, on se dit, est-ce que je prends une assurance ou est-ce que je me dis, si j'ai vraiment une grosse perte,
les gouvernements
viendront le fonds de calamité agricole.
Oui, c'est clair qu'ils sont un peu entre les deux. Quoi.
Voilà.
Et Jean Castex a en effet annoncé la semaine dernière un fonds exceptionnel des solidarités à hauteur d'un milliard d'euros qui permettra d'indemniser les agriculteurs en fonction des pertes déclinées dans les mois à venir. Pour contrer ces phénomènes des protections gratuites, on va dire, certains militent pour une assurance obligatoire, comme c'est le cas pour l'assurance habitation ou automobile. Par
voilà.
exemple, étant donné la récurrence et la gravité de ces événements climatiques. D'autres pistes sont aussi étudiées pour inciter plus d'agriculteurs à s'assurer. Actuellement, les contrats d'assurance sont subventionnés à hauteur des 65% dans les cadres de la PAC, politique agricole commune. Une des solutions pour inciter les agriculteurs à s'assurer davantage serait donc augmenter les niveaux de subvention des cotisations tout en abaissant les seuils de déclenchement de l'assurance. Et apparemment, les ministres Julien Denormandie travaillent sur les sujets.
Oui.
Et pour continuer, on prend notre envol direction la Russie, Olivier. C'est sur l'Express. Comment la Russie est devenue un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire ?
Oui, et en fait, il faut revenir quelques années en arrière. Hein. Tout a commencé finalement en 2014. Si vous vous rappelez, il y a eu des tensions entre la Russie, l'Union européenne et les États-Unis par rapport à l'annexion de la Crimée. En représailles à l'annexion de la Crimée par la Russie, l'UE et les États-Unis ont imposé des sanctions financières. Et du coup, en réponse à ça, Vladimir Poutine, il a décrété la mise en place d'un embargo strict sur tous les produits alimentaires venus d'Europe. Ah. Donc du jour au lendemain, il y a eu un embargo sur les importations de produits européens. Donc ce soit les fruits, les légumes, les produits laitiers, la viande, tout ça... Ça a disparu du jour au lendemain des étals des magasins.
Elle était dépendante de l'Europe, de l'Amérique.
Elle était ouais. quand même dépendante de l'Europe. Et pour les producteurs européens, c'était aussi un coup
marché.
Dur. Hein.
Ah ouais.
C'était un coup dur parce qu'on exportait quand même pas mal là-bas. Et en fait, ces mesures-là, ça cachait aussi une stratégie géopolitique, on pourrait dire, dans le sens où ça a forcé aussi au développement de l'agriculture russe. Donc du coup, on a quand même des acteurs en Russie qui se sont développés grâce à cet embargo parce qu'il a fallu développer l'autosuffisance
oui,
alimentaire du pays.
En fait, c'est vraiment un enjeu géopolitique hein, et ça c'est devient même un instrument de chantage. Il y a le directeur du syndicat des fromagers russes qui a annoncé le 28 mars dernier que l'Italie devrait reconnaître la Crimée comme territoire russe pour être de nouveau autorisée à exporter du parmesan dans les pays. Ouais. Tu vois à quel point on y va. Et en tout cas, si on ne trouve pas encore du parmesan russe, Olivier, la Russie est passée en quelques années d'importateur net, premier exportateur mondial des céréales devant l'Ukraine, en fait, son voisin et rival qu'elle a dépassé en 2017.
Oui, c'est un de nos gros challengers sur les céréales au niveau mondial. Hein.
L'Ukraine, oui, et la Russie ne s'est pas seulement concentrée sur les céréales. Un an après l'embargo, la Russie était déjà à 87% autosuffisante en viande et la production des viandes porcines russes a augmenté de 30% en 5 ans.
Mais surtout, ils se donnent les moyens de leur ambition. Hein. En 2021, ils vont investir plus de 77 milliards de roubles, alors ça fait à peu près 857 millions d'euros,
mmh.
dans un programme d'État de développement de l'agriculture. Et en fait, on se rend compte dans l'article qu'on est très loin de l'agriculture comme on la fantasme en France, de la petite exploitation familiale.
Très loin, ouais.
On parle là-bas carrément de agro-holding, dans le sens où c'est des holdings, des exploitations quelque part, qui vont exploiter au minimum 100 000 hectares.
100 000 hectares.
Et certaines vont jusqu'à 600 000 hectares.
600 000 hectares.
Donc c'est vraiment des proportions gigantesques par rapport à chez nous.
Gigantesques.
Et dans le lait, on a des exploitations, des agro-holdings de 50 000 vaches.
50 000 vaches.
Donc quand tu penses que chez nous, on râle sur des exploitations de 1000 vaches,
ah ouais,
imagine là-bas, quoi. C'est là où j'ai dit
ça fait un peu peur. Ces agro-holdings, et en fait, pour pouvoir gérer une production de cette taille-là, ils se tournent d'ailleurs vers les nouvelles technologies. Ils sont un peu obligés, en fait.
Oui, il y a beaucoup d'actech, hein, comme on dit.
Bien sûr, les monitoring des champs, des troupeaux par drone, par satellite, les récours croissants aux capteurs connectés. En fait, l'agriculture russe se tourne massivement vers l'agritech pour poursuivre son ascension. Et c'est justement l'opportunité pour les acteurs internationaux, car à 90%, il s'agit des technologies étrangères, européennes ou américaines. Car les innovations de ces types ne sont en effet pas concernées par l'embargo sur les produits agricoles étrangers.
Oui, tout à fait. Ça concerne vraiment que les produits alimentaires.
Que les produits alimentaires. Un autre point intéressant à souligner est que l'embargo ne concerne pas non plus la production agricole par des acteurs étrangers en Russie.
Oui, on peut s'implanter là-bas,
voilà,
produire sur place et approvisionner le marché russe en ayant des implantations industrielles sur place.
Et c'est sur ces créneaux justement que se positionnent désormais les acteurs français. Par exemple, c'est le cas des Bonduelles qui produisent fruits et légumes dans les terres fertiles du Koubin, ou des Danone et Lactalis dont les produits laitiers désormais made in Russie sont des retours dans les supermarchés russes.
Voilà. Ça évite de passer par une filiale dans des pays comme le Maroc, etc., pour pouvoir exporter là-bas.
C'est un point de la stratégie de la Russie sur laquelle on va voir beaucoup d'investissements de la part de Poutine. Et on va voir encore la Russie se développer de façon plus importante sur l'agroalimentaire.
C'est un acteur à surveiller, ça c'est clair.
C'est clair. On continue notre voyage, Olivier, maintenant avec la fraise d'Espagne. Buenos días. C'était sur 180 degrés quand la grande distribution soutient la fraise d'Espagne. Dans cet édito, on évoque les manques des soutiens de certains acteurs de la grande distribution à l'agriculture française.
Oui, c'est un édito un peu en forme de piqûre de rappel pour les acteurs de la grande distribution, hein, qui nous ont fait... ils ont fait le job en 2020, hein, ils ont mis en avant les produits français, etc. Mmh. Mais finalement, comme le dit aujourd'hui Philippe Toinard, le rédac-chef de 180 degrés, on y a cru un instant en janvier dernier quand Carrefour, par la voix de son directeur des produits frais et traditionnels, annonçait fièrement qu'il n'y aurait pas de fraises en janvier dans les rayons de cette enseigne. Parce que l'idée, c'était de dire, ce n'est pas de saison, elle manque de goût, etc., etc.
Oui, ils ont même, dans un communiqué sur LinkedIn, Carrefour justifiait d'ailleurs ses choix. Avec cette mesure, nous souhaitons sensibiliser nos clients à l'importance du respect de la saisonnabilité des produits et donner plus d'importance aux fruits de saison français.
Et finalement, trois mois plus tard, qu'est-ce que fait Carrefour? Ils ont diffusé un spot radio au mois d'avril pour dire, mettre en avant finalement des barquettes de fraises de 500 grammes à 0,95 euros.
Énorme. Ça veut dire un prix au kilo.
Alors, à ce prix-là, ça vient d'Espagne.
Euros, ouais, ou même d'ailleurs. Je ne comprends pas nos amis de Carrefour, Olivier. Ils sont complètement à contre-courant des demandes des consommateurs et des producteurs et surtout de leur propre discours. Alors qu'il y a un an, les grandes enseignes annonçaient leur soutien à l'agriculture française avec des grosses campagnes de communication, cette actualité nous montre qu'il y a encore du boulot pour retrouver le monde d'après, quoi.
Oui.
Olivier, on va finir en fait avec un dernier article. On passe de la grande distribution aux startups qui ont les pouvoirs de faire vieillir le whisky en un clin d'œil. C'était sur Financial Times. Whisky World at War. A stack allows spirits to be aged instantly. Le monde du whisky est en guerre alors que la technologie permet de vieillir les spiritueux instantanément. Alors Olivier, dans cet article, on apprend que certains acteurs de la filière spiritueux travaillent sur des solutions technologiques pour faire vieillir le whisky artificiellement. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde.
Oui, c'est un sujet que j'avais déjà abordé dans la newsletter en octobre dernier. Mm-hmm. Et en fait, c'est Brian Davis, qui est un cofondateur de la distillerie qui s'appelle Lost Spirits, qui affirme qu'il peut vieillir des spiritueux et obtenir un résultat équivalent à celui de spiritueux qui ont passé plusieurs dizaines d'années en fût de chêne, mais ça en seulement quelques jours. Donc, grâce à la science, il y a plusieurs startups américaines qui font ça. Il y a Bespoke Spirits, Cleveland Whisky. Ils vont utiliser des techniques, vieillissement du whisky ou du rhum en utilisant de la chaleur, de la lumière, du son, de la pression, des minuscules fragments de bois, des réacteurs qui ont été brevetés, des combinaisons de tous ces éléments-là pour faire vieillir un whisky en quelques jours.
C'est ouf. On apprend même que certains acteurs en fait, ont cherché à accélérer les vieillissements par des ondes sonores amplifiées, notamment en diffusion de la musique hip-hop ou heavy metal.
Voilà, vous avez un whisky qui a vieilli sur du Metallica, ça doit être bon ça.
Ça doit être bon. La rivalité est d'ailleurs féroce entre les différents vieillisseurs rapides. La plupart d'entre eux déposent des demandes débrévées ou en possèdent déjà. Et beaucoup ont d'ailleurs remporté les prix lors des dégustations à l'aveugle contre les spiritueux vieillis des façons traditionnelles.
Ouais, d'ailleurs, Brian Davis en question, lui, il pense que c'est très probable que ce sera la façon dont le monde fabriquera les spiritueux vieillis dans une centaine d'années. Hein. Oh, en gros, c'est pas pour tout de suite, du coup.
Ouais. Moi, je sais pas si je serais d'accord avec lui, mais de toute façon, à l'origine, la maturation d'un spiritueux est un processus complexe, en fait, dans lequel les arômes du bois, du fût s'infiltrent dans la boisson et des éléments du spiritueux s'imprègnent dans les fûts. Plusieurs réactions chimiques entrent d'ailleurs en jeu, l'évaporation, l'oxydation, l'estérification, au cours de laquelle l'alcool réagit avec des acides pour créer des composés appelés esters qui donnent aux spiritueux un arôme fruité caractéristique. Une longue maturation permet d'écrire une variété d'esters complexes et boisés. Et selon Ian Buxton, écrivain spécialisé dans les whisky, les distillateurs essayent d'accélérer les processus depuis plus d'un siècle et peu y sont parvenus.
Oui, et du coup, en fait, il faut bien voir que le marché des spiritueux au niveau mondial, c'est énorme. Hein. C'est à peu près 500 milliards de dollars.
Énorme.
Donc forcément, des procédés de maturation plus rapides vont posséder pas mal d'avantages. Hein.
Claire.
Ça permet de limiter les coûts de stockage, hein, parce que faire vieillir pendant 10-12 ans, il faut quand même stocker les fûts.
C'est clair.
On estime, par exemple, que À l'instant T, il y a environ 22 millions de barils de whisky qui mûrissent en Écosse.
Énorme. Et quelle est la valeur de ces 22 millions ?
Donc imaginez les coûts de stockage de tout ça. Alors après, l'autre avantage, ce que mettent en avant ces startups-là, c'est que c'est beaucoup plus facile pour eux de suivre la demande du marché.
Bien sûr.
Plutôt que de tenter finalement d'essayer de s'imaginer quel sera le marché dans 12 ans, 15 ans
quand... 18 ans.
Voilà. Quand on aura fait vieillir nos whiskies.
Très difficile. Et les problèmes, c'est qu'on observe, c'est qu'il y a une forte aussi augmentation de la demande pour les whiskies vieillis, évidemment. Sauf que l'offre, elle est limitée. Surtout, comme tu dis, les producteurs doivent anticiper la demande avec 8, 12, 18 ans en avance.
Donc ouais, c'est énorme.
C'est très, très, très difficile. Pour répondre à la hausse de la demande, les whiskies sont maintenant embouteillés de plus en plus jeunes et de nombreuses marques ont essayé de faire passer des messages que l'âge n'était pas forcément synonyme des qualités. Il y a même, en fait, pour certains whiskies, l'âge n'apparaît même plus sur la bouteille. On les appelle les NAS, No Age Statement.
Et du coup, forcément, tout ça, ça fait débat. Hein. Donc, Alan Park, qui est le directeur juridique de la Scotch Whisky Association, lui, il considère que ces produits-là, c'est des contrefaçons. C'est pas du whisky parce que dans de nombreux pays, on a des définitions légales de qu'est-ce qu'un whisky.
Bien sûr.
Qui va, par exemple, exiger une période spécifique de vieillissement en fût de chêne, etc., etc.
On est d'accord, c'est vrai. Moi, je serais d'avis de laisser faire la nature quand même. Au-delà du goût, c'est la maîtrise des processus de transformation naturelle qui est fascinante, en fait, et donne toute leur valeur aux alcools comme le whisky. Mais après, comme a dit les dirigeants d'une de ces startups, il y aura toujours un marché pour les spiritueux traditionnels vieillis qui sont plus anciens, uniques et rares, mais il y a aussi un marché pour un produit quotidien, de bonne qualité, abordable et qui correspond à la qualité de quelque chose qui coûte plus cher à fabriquer. Ça me fait, on peut penser à la contrefaçon, ça. Mais bon. On va terminer cette histoire avec l'avis d'Alan Park de l'association du whisky écossais qui dit « Faites ce que vous voulez, mais ne l'appelez pas whisky ».
Voilà, t'as tout dit.
Merci beaucoup Olivier, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Hits Business.
Salut Daniel, au revoir à tous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
Bonne semaine et à bientôt.